La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
Je me souviens d'un temps, Félix, il y a longtemps, où il n'y a pas une journée où tu nous parlais pas du PIC. Le PIC!
Exactement, de Dave Turmel.
Et là, on l'avait un peu oublié, le PIC. Et là, soudainement, ça revient, ça, là. Ça fait des manchettes. Oui.
Ben oui. Donc, je te raconte, là, il y a beaucoup de contenu dans ce que je m'apprête à dire. C'est-à-dire, au fond, il y a plusieurs angles. Le premier, c'est vraiment sur le rassemblement d'en fin de semaine. Je t'en ai déjà glissé un mot, des Hells Angels qui sont réunis à Saint-Denis de Brampton. Puis certains médias décrivaient ce rassemblement comme une démonstration de force, une démonstration de puissance dans le contexte où les Hells Angels de la section de Québec d'organisation sont mis à mal par les indépendants de Dave Turmel. Alors, voici le portrait. Ben, écoute, pendant que ces Hells Angels festoyaient ce week-end à Saint-Denis de Brampton, à Frampton, dans Chaudière-Appalaches, un de leurs clubs-écoles aurait été pris pour cible. En fait, il y a des hommes qui agissaient sous les ordres de Dave Turmel et de son équipe qui se sont présentés près du club-école dans lequel des gens étaient là pour faire la surveillance. Ils se sont présentés pour l'incendier. Alors, on a trouvé des bidons d'essence, on a trouvé des armes, mais ce qui est arrivé, c'est que la vigilance, en fait, des guetteurs qui s'y trouvaient, ont fait en sorte que ils ont repéré les suspects. Il y a un échange de coups de feu, mais ça a tiré, Richard, là, mais plusieurs coups de feu, si bien que il y a même ce qu'on appelle un prospect, un membre en devenir là du club école des Hells Angels, Samuel Chabot-Lucier, qui a été blessé, un autre aussi. Il y a pas d'accusation dans ça, mais il devrait y en avoir bientôt, selon ce qu'on nous dit. Ça sonne un peu la fin de la période d'accalmie qui a suivi quoi?
Ben oui.
L'opération policière baptisée scandaleux, parce qu'on en a, c'est ça dont on a beaucoup parlé cet hiver. Ben voilà.
Ben là, ça veut dire, ça veut dire il y a des jeunes délinquants qui travaillent encore pour le PIC contre les Hells Angels. Ils ont vu les vidéos des gens qui étaient des proches du PIC, qui se sont fait comme torturer par les Hells. Ils ont vu ça, puis ils ont dit, nous autres, on va continuer à emmerder les Hells Angels. Eh boy!
Ben oui, écoute, j'aime bien la manière dont tu le décris, même après que tout ça a été montré. Il y en a qui ont fait le choix, conscient ou non, de se joindre au rang du BFM, le Blood Family Mafia, le gang de Dave Turmel. Il faut dire sur le membership de ce gang-là, je fais un aparté d'ailleurs, que ce sont de très jeunes gens, hein, qui sont recrutés, des gens qui n'ont pas une grande expérience de la criminalité. Et Dave Turmel et son équipe comptent sur ces jeunes-là qu'ils recrutent parfois à l'adolescence. Donc, pour poursuivre à cet effet-là, mais là, on a parlé de Québec, mais là, ça se passe aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. Il y a une femme qui a été arrêtée lundi, qui va faire face à plusieurs accusations en matière de trafic de stupéfiants, mais elle était soupçonnée à héberger des membres du gang du BFM qui se rendaient sur la Côte-Nord pour aller passer à tabac des adversaires liés aux Hells Angels.
Mais tu sais, tu dis, ils sont jeunes, là, c'est quand même grave. Là. Ils exploitent ces jeunes-là. Ces jeunes-là pensent là, qu'ils vont faire là, un coup et qu'ils vont monter dans l'organisation. T'sais, s'ils se font pincer et se font torturer par les Hells, pique Turmel, il s'en fout. Il s'en fout. Je vais te remplacer par un autre, puis c'est tout. Là, t'sais, vraiment.
T'es en plein dans le mille. En plein dans le mille, Richard. Et sais-tu comment le gang de Dave Turmel incite ces jeunes-là à commettre des gestes hautement criminels, là, t'sais, des tentatives de meurtre, voire des meurtres, ben, c'est qu'il offre des grosses primes. Il offre d'énormes sommes d'argent à des jeunes qui en ont pas eu beaucoup entre les mains déjà. Donc ça, c'est un incitatif, si tu veux, si bien que le coup de renonciation à éviter de faire ça devient peu intéressant. Donc les jeunes veulent avoir cet argent-là puis rendre jusqu'au bout de cette affaire-là. Hey, écoute, il y a une chose que t'aurais... Il y a une situation qui a lieu de la prison d'Orsainville que t'aurais jamais vue avant. Je t'en glisse un mot. Les Hells Angels qui sont incarcérés là en attente de procès, entre autres Mario Auger et Marc Roberge, deux membres en règle du chapitre de Québec des Hells Angels arrêtés pour gangstérisme dans la foulée de l'opération scandaleuse parce qu'on ne s'est pas qu'intéressé au gang de Dave Turmel. Ben, écoute, ils se font intimider en prison. Il y a l'aile des BFM à la prison d'Orsainville en banlieue de Québec. Il y a l'aile des Hells Angels. Et quand ces deux membres en règle sortent, ils sont victimes de railleries, mais aussi de menaces en disant, écoute, on a de l'argent sur ta tête, on va te tuer, tu vas y passer. Ça, jamais ça se serait toléré avant à l'intérieur des murs. Puis ce qui se passe à l'intérieur des murs, me disait un criminel qui a grande habitude des séjours en prison puis des organisations criminelles, c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur des murs. Hey, puis te demandes-tu, il est où le fameux Dave Surmel? Parce que c'est le morceau du puzzle manquant. Où est-il?
Ben oui.
Une réponse pour toi.
Où?
Ben écoute, il sera encore au Portugal.
Ah,
regarde
oui?
Comment il joue ses. Ah, regarde ouais. Comment il joue ses affaires. Ça, c'est assez. C'est, moi, ça m'a. Je ne cache pas un certain amusement. En guillemets, devant les leurres qu'il utilise pour se sauver des policiers qu'il recherche. Parce que avec Dave Turmel et pour sa capture, parce qu'on rappelons qu'il est en fuite là, depuis plusieurs mois déjà, puis parce qu'il y a des accusations criminelles qui lui pendent au bout du nez. Maintenant, on l'a été capable de placer en Espagne, au Portugal en début d'année. Et là, récemment, les policiers ont commencé à voir des traces, en tout cas, à voir poindre des traces de Dave Turmel dans différents pays. Maroc, Maghreb, Cuba. Puis là, on se dit, est-ce que Dave Turmel voyage? La réponse, c'est non. Dave Turmel utilise, selon des sources qui sont confiées à notre bureau d'enquête, des cartes SIM puis des appareils électroniques qui lui sont liés, les remet entre les mains de certains complices qui viennent le voir en Europe et lui dit à ses complices, fais le voyage... je sais pas moi, à Casablanca au Maroc. Fais le voyage à La Havane avec mes appareils.
Ben voyons donc.
Inscris-toi, enregistre-toi sur ma session, envoie quelques messages. Comme ça, je vais apparaître là-bas. Donc, Dave Turmel apparaît un peu partout, mais au fond, il est introuvable. Ce qui a donné lieu, justement, à cette information infondée qui plaçait Dave Turmel au Maroc. Là,
écoute, récemment. Parce que là, moi, je pensais que c'était Dora l'exploratrice, là, vraiment. Là, il se promenait un peu partout, Dave Turmel. Alors, c'est ça qui fait... Prends mon appareil, va voyager, promène-toi, puis ils vont penser que je suis là. Incroyable.
Ben, écoute, oui, je trouve que c'est une méthode assez basique, mais qui manifestement porte ses fruits, parce qu'il y a beaucoup d'agences internationales qui, en collaboration présentement, tentent de mettre le grappin sur Dave Turmel au profit de la Gendarmerie royale du Canada, qui va le remettre au corps policier, là, puis au DPCP qui voudra l'accuser ici, mais présentement, il s'en joue. Il se joue de ces agences-là avec un certain succès, on est bien obligé de le dire.
Il est assez malin, quand même, faut le dire, il est assez malin. Écoute, Félix, ça te tente-tu de venir chez moi ce soir? On va écrire ensemble une toune rap parce que je pense qu'on est dans mauvaise business. On est dans mauvaise business. As-tu vu la cabane de Drake, toi?
Hey, yoy, le manoir, la cabane, le manoir. Toi, écoute, c'est honnêtement, je te le dis, quand je l'ai vu pour la première fois, je voyais juste les images à la télé. J'avais pas vu ce qu'on appelle le bandeau en bas d'écran là, qui disait que Drake avait un garde du corps de Drake avait été ciblé en banlieue de Toronto dans un secteur cossu. Je pensais que c'était un manoir californien appartenant à une grande vedette. Mais c'est une grande vedette, mais c'est son manoir à Toronto. Bref, il y a un super article. Non, il y a un super article dans le Journal de Montréal aujourd'hui que je vous incite à lire. C'est Alexandre Caputo qui nous explique un peu. C'est drôle parce que on dirait que OK, Drake est en guerre avec Kendrick Lamar. Pour ceux qui ne savent pas ça, là, ces deux rappers sont en guerre, puis ils saillissent bien gros. Et puis là, on se demande si ce conflit-là a eu raison là, du garde du corps de Drake qui a été atteint près de sa résidence à Toronto. Maintenant que ça c'est dit, écoute, il semble que Drake fasse beaucoup allusion dans ses chansons à ses contacts de Montréal. Dans l'une d'entre elles, sur The Heart Part 6, il dit « My Montreal connects, stand up, not fall down ». Donc, mes contacts montréalais se tiennent debout, ils ne tombent pas. Alors, Caputo, ce qui s'est dit, on va aller regarder s'il y a vraiment des contacts à Montréal. Et sais-tu quoi? Ça fait œuvre utile, cette affaire-là, parce que ça vient défaire un peu certains mythes. Parce que si tu regardes les contacts que M. Drake a dans la capitale, il y a le propriétaire du Ziggy. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le pub de Ziggy à Montréal. C'est une institution assez connue. voyons son nom, Ziggy Eichenbaum. Et puis Ziggy Eichenbaum, là, je veux dire, c'est pas un criminel, là. Je dirais qu'il est pas, il semble pas être en relation avec avec les plus hautes sphères des gangs de rue. Il y a, puis c'est principalement dans le domaine du show business, les contacts de Drake, là, à Montréal. Donc, vous ne voyons pas une guerre se créer entre Montréal et Toronto pour sauver l'honneur de Drake. J'ai l'impression que ça arrivera pas.
Tu sais, tu disais la guerre entre Kendrick Lamar puis Drake. Il y a rien dans le milieu du rap que t'as ça. Tu sais, t'as pas ça. Mettons, Michael Jackson et Prince se tiraient pas dessus, là. Tu sais, ils étaient pas, je sais pas, là, t'avais pas ça entre René Martel puis Ginette Reno, mettons, là, tu sais.
Non, mais en Tupac et Biggie Small, par exemple, t'avais cette guerre-là. Effectivement, t'as raison. Mais tu sais, je note au passage, en terminant aussi, je trouve quand même, puis permets-moi, là, permets-moi de me scandaliser, tiens, tant qu'à être rendu là, que Drake, qui est suivi par des millions de jeunes gens, porte des chandails Support 81, des chandails en support à un groupe criminel, lorsqu'il est sur scène, ça ne rentre pas dans la tête. Il a essayé de contourner ça de toutes les façons possibles en disant, c'était pas vraiment un appui, ça n'avait pas...
Il veut son street cred. Je suis encore, même si je suis millionnaire et j'ai une grosse cabane, je suis encore un gars du hood. Je suis encore un gars de la rue puis tout ça, là. Tu sais, c'est pathétique en Christie, ça. Vraiment.
Mais tu sais, moi, quand je te le dis toujours la même chose, je sais que je ronchonne avec ça, mais quand tu décides de traverser la ligne qui te sépare ton compas moral de ce qui est légal puis de ce qui n'est pas légal, c'est une chose, puis pas loin de cette chose, il y a aussi quand tu affiches ton appui ou ton amour ou ta sympathie à des groupes qui sont déclarés, en tout cas au Canada, comme une organisation criminelle reconnue par les tribunaux. Ça me rentre pas dans la tête. C'est ça.
Pathétique. Merci beaucoup, Félix. À demain. Salut.
Au revoir. Ouais.
Débat, opinion et analyse.
Cube.